Vous écoutez
RMC. RMC, les meilleurs moments de Rotten sans flamme.
Benoît Boutron.
Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur RMC pour les meilleurs moments de Rotten sans flamme. On vous souhaite d'ores et déjà à tous un magnifique Noël. On espère que les fêtes se sont bien passées, le réveillon hier, le repas de ce midi. On espère que les enfants ont été gâtés. Et on a hâte de vous retrouver le 5 janvier avec Jérôme Rotten, avec toute la Dream Team. On vous fait un cadeau à notre manière ce soir parce qu'on vous fait réécouter les meilleurs moments de cette première partie de saison avec des débats mythiques qui ont enflammé la Dream Team, notamment sur les stats individuelles. On en avait parlé avec Christophe Dugarry et Jean-Pierre Papin le 10 octobre. Vous allez revivre ce grand moment dans quelques secondes. À 18h30, un procès, celui de la FIFA et de son nouveau carton vert. Là aussi, le débat avait enflammé tous les membres de la Dream Team. Et puis à 18h45, un très beau Allo Jérôme ce soir. Neil El Aynaoui, international marocain, qui était notre invité avec Jean-Michel Larquet et Steve Savidan. Mais tout de suite, on y va sur les stats avec Duga, JPP et Jérôme.
Rien n'a plus de sens.
Bonjour, je te propose de voir tout le cours sur le chapitre des statistiques.
Ouais, si tu veux, peut-être, mais va caguer à la vigne.
Alors la caractéristique de dispersion qui est étudiée cette année s'appelle l'étendue.
T'as craqué Louis Clos.
Comment tu dis ?
Craquer le huis clos.
Non mais j'ai fait une Didier Deschamps.
Voir que l'étendue trouve très vite ses limites.
Je suis amateur de saut à la perche. Tu vas me faire sortir ma perche.
Il existe des séries statistiques qui sont composées de plusieurs centaines, voire milliers de valeurs.
Mais... On s'en branle ! On
Il serait bien de pouvoir résumer toute l'information qui est donnée dans cette série par certaines caractéristiques.
Rien plus rien, ça fait rien de neuf, quoi. Il n'y a rien du tout.
Il y a parmi ces caractéristiques, certaines qui s'appellent caractéristiques de position.
Ces critères de dire oui, alors on a...
D'autres caractéristiques de dispersion.
Cite simplement sur le doigt que j'ai mis.
Rien n'a plus de sens.
Ah, c'est impressionnant, la Dream Team. Voilà, bravo.
C'était l'année dernière, ça, rassure-moi, parce que si c'est cette année,
franchement, en fin de saison, t'étais bouilli.
Ah ouais, j'étais bouilli parce que là, si c'est tout de suite, là, on est mal barré.
Tous les extraits de Steve Savidan, c'est cette saison.
Ah non, mais ça, il était en surchauffe au mois d'août.
Une émission par semaine, on a un best-of rempli à chaque fois.
Ah non, il en a fait 5 de suite au mois d'août.
Ouais, c'est vrai. Il a lancé la saison.
Ouais, bon. Il a voulu nous plomber tout de suite. Oui.
Un record de plus pour Cristiano Ronaldo. Il a marqué en Hongrie hier soir avec le Portugal. Il est devenu co-meilleur buteur de l'histoire des qualifications pour la Coupe du Monde. 39 buts. Ronaldo a 40 ans. Il a inscrit 141 buts en 223 sélections. On parle également des records. On peut parler de Kylian Mbappé, devenu hier le deuxième meilleur buteur des Bleus avec 52 buts. Il a 5 buts d'Olivier Giroud. Il a 26 ans. 92 sélections en 8 années d'équipe de France. Pour comparer, on en parlait tout à l'heure, mais c'est le même ratio que toi, JPP, en équipe de France. C'est 0,51 buts par match. C'est-à-dire que vous marquiez un but tous les deux matchs. Tu avais le même ratio, JPP. Malheureusement pour toi, beaucoup de moins de sélections. Donc forcément, Mbappé va exploser les compteurs. Est-ce que les statistiques individuelles ont encore un sens? 32-16 pour en parler avec nous. Est-ce que ça t'intéresse toujours, Jérôme, les stats, ou est-ce que tu trouves ça ridicule désormais? Il y a plus de matchs, il y a des adversaires plus faibles. Comment tu vois ça, toi?
Non, mais après, il y a des stats qui sont intéressantes. Il faut vivre avec son temps aussi. Moi, je parle déjà ma période. Mmh. Elle est pas si vieille que ça. J'ai arrêté de jouer il y a à peu près 10 ans. Un peu plus de 10 ans. Duga et Jean-Pierre, c'était bien avant. Donc, automatiquement, déjà, moi, j'ai vu l'évolution au niveau des datas, s'entraîner avec des GPS, avoir une feuille de stats après les matchs.
Les dribbles réussis.
Et ça, c'était au début des années 2000. Mmh. Et puis après, ça s'est développé. Après, il faut voir ce que t'en fais de ça. Déjà, quand t'es joueur, quand t'es entraîneur et tout ça. Là où c'est problématique aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que les fameux GPS, les fameuses data, que ça soit pour les stats, alors des stats qui veulent rien dire, tout et rien dire, les passes réussies, alors ça c'est le pire, ça, tu vois, le pourcentage de passes réussies, c'est une anomalie, une connerie incroyable, parce que ça dépend, on en parlait hier avec Jean-Michel.
Donc les passes à un mètre, 95%
le joueur qui joue toujours vers l'arrière ou des passes latérales, bien sûr qu'il va avoir 95-99% de passes réussies. Voilà, et puis que les joueurs offensifs, forcément ils vont avoir plus de déchets parce que plus de prise de risque ou les joueurs de côté, mais ça peu importe. Après là, on arrive après dans les stats, les performances individuelles et ces fameux stats. Donc, toujours courir à travers les records, tout le monde est passé par là. Bien sûr que quand tu es un buteur, et là je parle à des attaquants, Duga et Jean-Pierre, bien sûr que t'as envie de marquer. À chaque match, t'as envie de marquer. Et quand tu marques pas, tu peux avoir la déception de pas avoir marqué. Il y a pas de souci. Les buteurs sont assez égoïstes de ce côté-là. Moi, j'ai eu la chance de jouer avec des grands buteurs aussi. C'était un peu ça. Maintenant, ça doit pas prendre le pas, si tu veux, sur le résultat, sur l'alchimie que tu dois avoir avec les autres joueurs et surtout sur les performances collectives. Tu vois, donc et si tu marques pas et que l'équipe elle est bonne, ça veut dire aussi que t'as servi en quelque sorte.
Ça te fait rêver Ronaldo qui met 141 buts avec.
Mais après voilà, on arrive à des stats individuelles, ces stats là où en effet t'as des records qui tombent. Alors déjà, ça n'a rien à voir avec l'époque parce que il y a plus de matchs, il y a plus de compétitions, il y a plus de matchs moisis, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a des équipes, on parlait avec l'Islande, on a fait le débrief de France-Islande hier, des équipes faibles, il y en a.
On va jouer à l'Azerbaïdjan.
T'as vu la Norvège qu'on a mis 11 à la Moldavie, avec 5 buts de Haaland.
Il a dit pardon au gardien d'ailleurs.
Non mais, ok, il n'y a pas de souci. Donc, ça veut dire que Haaland, il va mettre plus de buts avec une sélection très très moyenne que Jean-Pierre Papin ou d'autres de l'époque, tu vois, sans parler de Jean-Pierre, de parler même de David Trezeguet ou Thierry Henry pour les plus récents. Donc non, moi, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'à travers ça, franchement, moi, ça m'intéresse pas. Tu sais, qu'ils battent les records du nombre... Tu te rends compte, là, on parlait du ratio, du nombre de buts marqués.
Le nombre de buts en qualif de Coupe du Monde.
En qualif de Coupe du Monde, et après, ça va être sur les matchs de Coupe du Monde. Mais tu m'étonnes qu'à la Coupe du Monde, le record de Just Fontaine, il va être battu. Il y a 48 équipes, la prochaine Coupe du Monde. Ouais. Donc, quand ils vont mettre 15 buts en temps de match, on va dire, waouh, ça y est, ils ont battu un record historique. Oui, mais il y a plus de matchs. L'Euro avant, et Jean-Pierre a participé, l'Euro, il y avait 8 équipes.
Il n'y avait que des cadors.
Il y avait 8 c'est équipes ça. À l'Euro. Mmh. Aujourd'hui, on a combien ? On a vu le dernier Euro avec les matchs moisis des équipes qui n'ont rien à faire là normalement. Tu vois, bah je vais pas les citer, mais on le sait tous. Donc des matchs où tu dois gagner 4-5-0, avant ça n'existait pas ces matchs-là sur des matchs des matchs de compète avec des grandes compètes. Donc pour moi ça veut rien dire. Le problème à ça, et là je donne la parole à Duga et à Jean-Pierre. C'est que les joueurs se nourrissent de ça, les agents se nourrissent de ça. Aujourd'hui, ils se disent, ouais, mon joueur, il marque tant de buts. Allez, il faut que tu pousses. Là, le mec, ouais, je suis à 2 buts du record de nombre. Tu crois que Kylian Mbappé, qui va battre bientôt le record de Giroud, tu penses que aujourd'hui, à l'heure actuelle, s'il bat le record de Giroud, c'est le plus grand attaquant qui a joué en équipe de France de tous les temps?
Ah, bah, le débat va s'ouvrir.
Je pense qu'il y fait attention.
Ah oui.
Ah bah oui. Allez,
vas-y Jean-Pierre.
Ouais. Non, je pense qu'il y fait attention.
Il vit que pour
après,
ça.
Jérôme, t'as tout résumé sur une phrase. En fait, il faut vivre avec son temps. Nous, à l'époque, les data, on en avait strictement rien à foutre. Par contre, il y avait des gens qui venaient nous dire, t'as eu tant de passes, t'as eu 30 déchets, tant de passes réussies, tant de passes perdues, etc. Et encore que, on n'y faisait pas attention. Maintenant, on vit dans un monde où ça, c'est devenu un peu la base de tout, en fait. C'est que pratiquement, après chaque match, ils te sortent la photocopie avec toutes les données, tous les datas, les courses que tu as fait, etc. Et alors, autant moi, quand j'étais joueur, sincèrement, j'en avais rien à faire.
Le nombre de buts, tu t'en fichais, Jean-Pierre ?
Non, mais c'était une data que je connaissais par cœur, parce que avant chaque match, ma data, je la connaissais, quoi, si tu veux. Et je savais que je voulais marquer tout le temps. Moi, quand je vois Haaland qui peut-être s'est excusé au gardien, mais s'il avait pu en mettre 10, il en aurait mis 10. Ça aurait pas posé de problème. Mais je pense que les data aujourd'hui sont devenues, importantes. Tu vois, moi, en tant que joueur, je faisais pas attention. Et en tant que coach, par contre, j'avoue que ça aide bien à faire progresser, à savoir où t'en es, à savoir pourquoi ça a marché, pourquoi ça a pas marché. Avec mes gamins l'année dernière, je peux te dire que après chaque semaine, on avait les data de tout ce qui était entraînement, comme tu disais tout à l'heure, avec les GPS. Mais avec les GPS aussi, on avait aussi, par rapport au médical, etc., des données qui se recroisaient et qui permettaient de comprendre pourquoi il y avait tel ou tel qui était pas bien ou qui était bien.
Tu vois ce que mais je veux Jean-Pierre, dire toi le ballon d'or, quand tu vois comme ça des stats hallucinantes, 220 sélections, 140 buts en équipe nationale,
ça te fait rêver ou tu te dis mais en fait c'est incomparable par rapport à mon époque quoi. Je te dis le ratio
c'est incomparable,
le même que Mbappé toi. Ouais.
Mais c'est incomparable, mais c'est l'avenir qui veut ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on vit avec ça. Il y a de plus en plus d'équipes, tu marques de plus en plus de buts, tu fais de plus en plus de matchs, et malheureusement ça tu peux pas changer quoi qu'il arrive. Donc nous on a vécu avec un ratio qui était moindre que ce qu'il est aujourd'hui. Parce que ils ont 10 fois plus de matchs, c'est un truc de fou, quoi.
Et des carrières plus longues aussi, puisque
carrières plus longues.
Ouais. Duga, toi, tu regrettes de pas avoir joué à cette période-là, t'aurais marqué plus de buts.
T'as raison. je sais même pas sûr. non, mais qu'est-ce que tu veux que je réponde à tout ce que vous avez dit? Effectivement, ça peut servir, les stats, les data. Alors moi, je suis plus pour les stats ou les data physiques, qui pour moi ont une vraie utilité. Voilà, pour le coup, tu peux bien les utiliser. Après, pour le reste, ça veut rien dire. Une façon de penser le football, de vivre le football, il faut être intelligent sur le football, il faut sentir le jeu. Voilà, c'est quelque chose de différent. Le football ne se juge pas dans les statistiques, pour moi. Voilà. Après, je veux pas non plus minimiser les mecs qui sont capables de marquer 50 ou 60 buts par saison, parce que c'est toujours difficile de marquer des buts, et ça reste depuis la nuit des temps la chose la plus difficile en football. Voilà. Après, une fois que tout ce que vous avez dit sur le nombre de matchs en plus, donc forcément plus tu joues de matchs, plus tes stats seront meilleurs, moi je trouve que c'est la société d'aujourd'hui, et c'est vrai qu'on nous vend ça. Et le problème d'aujourd'hui, c'est que le football, on nous le vend qu'à travers ça.
Eh oui, c'est ça.
Et c'est ce qu'on renvoie aux passionnés de football et aux supporters de football. On leur renvoie à chaque fois des stats, à chaque fois le nombre de buts, tu vois. Et même nous supporters, à force de nous envoyer des choses comme ça qui ne veulent rien dire, on nous abasourdit de stats qui ne veulent parfois rien dire. On nous met presque dans la confidence de nous donner ces stats en nous faisant passer pour des entraîneurs, pour nous faire passer pour des joueurs. Je suis sûr qu'il y a des mecs derrière leur ordinateur qui se prennent aussi pour des joueurs, qui se disent que être footballeur c'est pas difficile que ça, parce que moi avec tout ce que je sais, je pourrais peut-être le savoir, le faire, en parler. Donc voilà, donc c'est aussi le monde du football, les instances qui nous ont servi ça. Et je pense que à travers tout ça, la chose la plus importante, c'est de redonner goût au football. Et de redonner goût au football, c'est déjà une chose. D'en voir moins, parce qu'il y a trop de matchs. Ces matchs nous rendent débiles. On n'a plus envie de regarder, on n'a plus de fraîcheur. Et je pense qu'un supporter doit aussi avoir de la fraîcheur lorsqu'il regarde un match de football. Parce que quand on en regarde trop, on n'a plus envie d'en regarder. Voilà, c'est comme ça. Donc je pense que en essayant, si on pouvait, je ne sais pas si c'est possible encore de faire marche arrière, mais redonner justement de l'intérêt à un match de football, ce que c'est, plutôt que de nous donner des chiffres, et bien je pense que ça changerait beaucoup de choses.
Vous avez un œil de professionnel, enfin, j'en ai parlé ensemble du gars aujourd'hui, mais Jérôme, je sais que c'est ton avis aussi. Toi qui es ancien joueur et qui aime les belles actions et tout, t'étais plus impressionné par un Benzema qui allait t'inventer une passe, te faire un geste, se sacrifier pour le collectif, que parfois un mec qui va mettre 4 buts, qui est un peu une machine comme ça et qui te fascine moins, en fait, c'est ça. Il y a moins de stats, mais c'est plus beau, tu vois. Ça prend plus une émotion, tu vois.
Mais moi, je vais te dire une chose, pour on va citer des noms, si tu veux, on est aussi là pour ça. Moi, Harry Kane ou Thomas Müller, ils peuvent marquer 1 million de buts. Je ne les regarderai pas jouer et je m'en fiche comment ils en ont marqué. Harry Kane, pareil. Moi, Harry Kane, je l'ai vu. Non, mais il a eu une très très bonne période à Tottenham, mais c'est pas le genre de joueur qui me fait rêver. Voilà, parle-moi de Benzema, parle-moi de son intelligence de jeu, à se déplacer, à jouer entre les lignes, d'être un coup numéro 10, un coup avant-centre, un coup deuxième attaquant. Tout ça, c'est quelque chose qui fait rêver. Et quand t'as été joueur, tu reconnais encore plus ça. Ou même Jean-Pierre, la qualité des buts qu'il a marqué il a réussi. Il y avait un style. Voilà. Après, il y a des mecs qui ont réussi à déclencher un style.
Mais Jean-Pierre, quand même, Harry Kane. T'aimes bien Harry Kane?
Moi, Harry Kane, j'aime bien le joueur. Je trouve que dans un championnat comme il était à Tottenham, sincèrement, moi, il m'a impressionné. Au Bayern, il est dans une équipe déjà qui performe, donc c'est plus facile.
Non, mais Jean-Pierre, avec l'Angleterre, il a marqué combien de buts avec l'Angleterre, et l'Angleterre, ils gagnaient jamais rien, ils sont jamais nulle part. Ça compte aussi.
Non, mais on parle du joueur, on parle pas dans l'équipe qui joue, on parle le joueur. Le joueur, quand même, il a des qualités, du gars.
Ah, il a des qualités. 108 sélections, 74 buts, Harry Kane, quand même.
Oui, et son équipe a jamais rien gagné.
Et il y en a beaucoup comme ça, des joueurs, il y en a beaucoup comme ça qui ont performé.
Mais c'est plutôt ça. Mais c'est plutôt ça qu'il faudrait mettre en exergue aussi et en valeur.
Exactement.
Le mec, il a marqué 74 buts, mais son équipe, elle gagne jamais. Donc ouais, c'est pour ça que peut-être a marqué 5. Et même lui, je suis persuadé qu'il préférerait en avoir marqué que 50 et avoir gagné un ou deux titres.
Et
avec
contre
son équipe
qui tu
aussi
mets les buts aussi.
Oui, mais le problème aussi, après, c'est ce qu'on met dans la en place. Et moi, les entraîneurs, les préparateurs physiques, les dirigeants aujourd'hui, ils mettent en place ça avec le joueur aussi, les entourages des joueurs, les agents des joueurs. C'est-à-dire que la stat individuelle, elle doit tourner. Donc forcément, tu te mets dans la tête, et je te le dis parce que moi, j'ai pas honte de le dire.
Contre le Panama, le mec.
Mais du gars, il y a une vraie évolution là-dedans, dans les mentalités des gens, de l'entourage, de ceux qui encadrent le foot et des joueurs aussi. Et moi, je l'ai senti, je te dis, entre 2000 et 2010, il y avait évolution, mais même dans les contrats. Tu sais que moi, j'étais un joueur de passe. Je faisais des passes, moi, des passes décisives, je me nourrissais de ça. Et c'est vrai que il fallait que je fasse des passes décisives parce que j'avais l'impression que plus je faisais des passes décisives qui se transformaient pas toujours en but, parce que l'attaquant aussi, il peut rater ou elle peut être trop longue. Mais, dans une mi-temps ou sur un match, il fallait que j'en fasse au moins 4 dans la première mi-temps, 4 dans la deuxième. Et je me disais, bon, dans l'ensemble du match, ça voudra dire que j'ai fait un bon match. Et c'est vrai que cette évolution-là, je l'ai senti. Mais même dans les contrats, je vais te dire, je me suis toujours refusé. C'est pas me dire, oh, ça, c'est beau ce que t'as fait. Mais tu sais, mettre des primes au nombre de passes décisives, c'est terrible. Non, mais c'est terrible parce que ça te force, si tu veux, tu vas déjouer. Tu vas déjouer naturellement. Et ça m'est arrivé par moment, je le reconnais, hein, ça m'est arrivé de dire, tiens, ah, est-ce que là, je fais le décalage et c'est lui qui va faire la passe.
Seul devant le but, ou je vais lui passer.
Ou de la tenter la passe. Et puis là, tu ramènes avec du déchet. Donc, en fait, il y a un truc systématique, je sais pas, j'ai pas parlé à tous les joueurs aujourd'hui, mais je pense qu'ils ont ça aussi dans leur cerveau et ça se ressent, si tu veux, sur le terrain, quand on voit des choses qui sont hallucinantes. Tu vois, pas la bonne passe au bon moment, le dribble forcé, la frappe forcée, et ben moi c'est désolant.
Après, respecter Harry Kane qui a mis un quadruplé contre Saint-Marin, hein. Il a gagné 10-0, mais il a mis 4.
Mais c'est un grand joueur, mais moi c'est pas le genre de joueur qui va me faire kiffer. Après, il peut en marquer autant de buts qu'il veut, c'est je suis moins touché par ce genre de joueur. Après, les stats, il faut les prendre pour ce qu'elles sont, ça reste que des stats. Les gens qui font une fixette sur ça, mais c'est avec le football manager, tous ces jeux là qui existent, tout ça, où on te vend des stats, où on te dit voilà, tu peux acheter tel joueur, prendre tel joueur, tu peux vendre celui-là, et on te sert des stats et tes stats, et t'as l'impression que tu les connais, ces jeux là. J'ai vu jouer à mes enfants, je joue avec ça, où t'as l'impression que t'es une fois entraîneur, une fois t'es président, tu peux acheter tes joueurs, tu peux les revendre, tu peux, et on te sert des stats à longueur de temps, et après forcément tu ressors que ça du football.
C'est le recrutement du gars, tu parles de ça, et Jean-Pierre aussi, et Jean-Pierre, toi t'as été entraîneur, donc certainement que tu l'as
vu. Deux jeunes joueurs en réserve,
mais
à l'OM,
mais il y a des scouts, il y a des mecs qui sont chefs des recrutements, qui se base avant tout que sur les datas, sur les stats. Et franchement, moi, ça me fout en l'air de voir ça, parce que...
Parce qu'ils comprennent rien au football, parce que c'est des quiches au football, ils sont incapables de faire une analyse technique du football.
Ils ont des postes importants dans certains clubs, et tu sais, je te le dis, j'ai échangé avec la personne qui s'occupe des datas à Monaco, tu vois, il était content de me rencontrer parce qu'il savait ce que je pensais des data, des fameuses data, où moi je suis contre beaucoup de chiffres, pourcentages qu'on peut te donner là, on te pourrit le cerveau avec ça. Où je lui ai dit, et je le dis encore aujourd'hui, c'est-à-dire que l'œil, pour moi, l'expérience terrain, c'est le plus important. Tu vois, on a tous un œil différent, là on analyse un joueur différemment. Mais je suis désolé, notre expérience là, l'œil, c'est mieux que les chiffres. Tu vois, un mec qui contrôle bien le ballon, après, qui va vers l'avant.
Après, là, vous avez un peu un discours d'ancien, quand même.
Non, mais
j'ai l'impression de vous entendre sur la VAR.
Pas du tout.
C'est ça l'histoire.
C'est
forcément un outil.
Et là-dessus, ce qui m'a rassuré à Monaco, parce que c'est un grand club, ce qui m'a rassuré, c'est que lui m'a dit, mais Jérôme, t'as tout résumé. Il faut se servir que ton œil et ton expérience terrain, ça se complète avec ces datas. En général, on n'est pas à l'opposé. Ouais. Si on est à l'opposé, c'est qu'il y a un problème.
Non, mais tu vois, il aurait pu y avoir un club et une équipe qui auraient pu participer à ça, c'est-à-dire éviter de mettre la stat au-dessus de tout. C'est le Paris Saint-Germain, avec ce qu'ils ont réalisé collectivement.
Ça, c'est vrai.
Moi, je trouve qu'ils auraient pu, tu vois, tellement communiquer différemment sur ce qui s'est passé sur cette saison du Paris Saint-Germain, plutôt que de rentrer dans une espèce de débat stérile à la course au ballon d'or et tout.
Ça, je suis d'accord.
J'ai trouvé ça tellement ridicule quand tu vois
ils n'avaient pas besoin.
La force de. Mais la force de ce collectif, s'il y avait eu de la communication sur ça, sur cette équipe, sur, moi, je trouve que ça aurait fait énormément de bien au football plutôt que de faire comme les autres, comme fait le Real, comme fait le
T'aurais
Barça.
T'aurais aimé qu'il y ait un discours officiel, tout le monde le mérite, tous ils ont fait une saison extraordinaire,
été,
etc.
Mais ça aurait été extraordinaire.
Donnez-le à qui vous voulez. Mais
même, non, mais même, mais tu vois, un discours, donnez-le à qui vous voulez. Nous, on sait que c'est notre équipe qui le mérite. Voilà, on s'en fiche. Tu vois, être détaché de ça, et la chose, elle te serait revenue, et t'aurais envoyé un message aux jeunes, aux passionnés de football, t'aurais envoyé quelque chose d'extraordinaire. En plus, ça fait l'unanimité, le jeu collectif du Paris Saint-Germain. Je pense que le message, il aurait été incroyable.
Et ce qui aurait été encore plus beau, du gars, c'est que tu finisses en disant, celui qui le mérite, c'est Luis Enrique. Alors là, franchement, tu nous refaisais l'émission.
Il le mérite autant que ses joueurs, bien évidemment. Voilà.
Tu le sauves. Un grand débat autour des statistiques individuelles avec notre Dream Team. Dans un instant, un procès, celui de la FIFA et de son nouveau carton vert. C'était fantastique. Restez avec nous. On est là jusqu'à 20h sur RMC.
RMC, les meilleurs moments de Rotten sans flamme.
Benoît Boutron.
Les meilleurs moments de Rotten sans flamme jusqu'à 20h ce soir sur RMC. J'en profite pour vous souhaiter un excellent Noël en ce 25 décembre. On espère que tout s'est bien passé et on a hâte de vous retrouver le 5 janvier avec Jérôme et avec toute la Dream Team. Dans un quart d'heure, le Allo Jérôme, comme d'habitude à 18h45, avec deux invités exceptionnels. Pedro Miguel Paoletta était avec nous pour parler des Portugais du Paris Saint-Germain. Vous entendrez également Neil El Aynaoui, l'international marocain, qui était venu nous rendre visite après le record historique réalisé par le Maroc, le nombre de victoires consécutives sur des matchs FIFA. Justement, la FIFA, on en parle tout de suite, c'est le procès de Rotten sans flamme.
RMC, Rotten sans flamme.
Que quelqu'un puisse se tromper, je veux bien, mais le problème, une nouvelle fois, c'est pas la VAR, c'est comment elle est utilisée. Je pense que c'est une idiotie de dire qu'il faut arrêter la VAR. La VAR ne t'enlève aucune émotion, c'est pas vrai.
Le procès de Rotten sans flamme.
Manu, Jérôme, Steve, je demande toute votre attention et votre concentration.
Je suis pas d'accord avec Dugas sur ce qu'il
a dit. On va expliquer, Manu, le carton vert, cette innovation arbitrale testée lors de la Coupe du Monde U20 qui se déroule actuellement au Chili. Manu, concentre-toi s'il te plaît. Le carton vert, c'est très simple.
Parce que tu m'as raconté un truc ce matin, un autre ce midi.
On a travaillé. Avec le carton vert, ce sont les coachs qui sollicitent l'arbitrage vidéo dès qu'ils estiment qu'une situation est litigieuse et qu'il y a une erreur de l'arbitrage. Ce système a d'ailleurs permis au Maroc de faire annuler un pénalty injustement accordé à l'Espagne il y a 2 jours. Chaque entraîneur a le droit d'utiliser le carton vert 2 fois. C'est comme un challenge au tennis, c'est la meilleure image possible. 1 fois par mi-temps, mais si la décision va dans le sens de la contestation, si l'entraîneur a eu raison de se plaindre et que l'arbitre change sa décision, il récupère un carton vert. C'est-à-dire que son carton vert n'est pas utilisé. Il conserve son joker et son challenge. Attention. Et là, attention. Le carton vert se substitue à l'arbitrage vidéo classique. Ça veut dire que c'est soit VAR, comme on la connaît aujourd'hui dans tous les grands championnats et en Ligue des Champions d'Europe, soit le carton vert. C'est pas le carton vert qui s'ajoute à l'arbitrage vidéo qu'on connaît en ce moment. L'argument que plaide la FIFA, qui est en phase d'expérimentation, c'est que le carton vert, ça coûte moins cher parce qu'il n'y a pas de VAR Center, il n'y a pas d'arbitre vidéo consacré à ça. Et quand il y a le carton vert, ça veut dire qu'il y a juste le quatrième arbitre qui a l'arbitre central à prendre une décision par rapport à des caméras.
C'est à l'étude au niveau des divisions ou des équipes jeunes. Mais ça veut dire quoi? Si c'est concluant, ils vont le laisser aux divisions inférieures.
On verra ce que préconise la FIFA ensuite.
Ils vont pas le mettre.
Ce soir, on ouvre le procès donc de la FIFA et de ce nouveau carton vert. Vous êtes bien procureur, monsieur Rotten?
Vu que depuis ce matin c'est tout et son contraire, donc
après ce que vous avez entendu là,
non mais je
tu peux pas. En fait, on apportera des précisions.
Je vais te dire, je vais pas donc Emmanu.
Manu et Steve sont avocats. Voilà. Et Thiago, supporter de l'OM, va rendre son verdict. Salut Thiago.
Bonjour.
Salut Thiago. Bienvenue Thiago.
Salut Thiago. Vas-y Jérôme. D'Europe, hein.
Qu'est-ce que tu penses du carton vert, Jérôme? Alors vas-y.
Hey, il est supporter de l'OM.
Bah oui, bah
il va être champion d'Europe.
Ah d'accord. Je crois que tu veux sur moi en fait.
Non, pas du tout. Non, je ne me permettrai pas.
Mais quand tu bats le champion d'Europe, tu peux être champion d'Europe.
Eh ben c'est pour ça. Alors oui. Donc bon. On parle du carton vert. Alors le carton vert. Moi, je suis. J'ai envie de le défendre, vu comment tu me le présentes.
D'accord.
Okay. Donc c'est pas un procès
maintenant,
en fait.
Non. Maintenant. Un procès. Moi, c'est pas le carton vert que j'attaque là. C'est la FIFA, parce que j'espère bien que quand tu vas tester ce carton vert, là, c'est le cas en ce moment avec la Coupe du Monde des U20.
Ouais.
Peut-être que tu vas l'intégrer, si tu veux, donc après, parce que c'est une réussite. Donc tu vas l'intégrer à des championnats mineurs et à des stades qui n'ont pas la VAR, pas de problème. Mais si ça donne satisfaction après ça, J'espère juste que la FIFA, ils vont se rendre compte que l'utilisation du VAR dans l'élite, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est problématique. Et que ça, ça peut arranger beaucoup de choses. Je m'explique. Pourquoi ça peut arranger beaucoup de choses? Parce que tu gères plus facilement la frustration des entraîneurs ou des joueurs, parce que s'ils se sentent attaqués, floués, lésés, et ben dans ces cas-là, ils font appel, en effet, tout de suite à un challenge, là, ce carton vert.
Ça concerne que les situations prévues dans le VAR aussi. Non,
mais
hein, c'est donc.
Mais arrête, mais les situations. Pénalty, mais il est là le problème.
L'identification, carton rouge ou pas.
Le problème, il est là de la FIFA, et c'est pour ça que je vais les attaquer là-dessus.
C'est le même cas pour le carton vert.
Parce que oui, mais. Vous avez des bonnes idées avec ce carton vert, ok, pas de problème. Mais déjà, régler l'utilisation de la VAR, qui est un vrai problème. Je parle pour notre championnat. Hier, j'ai eu la chance de croiser un arbitre international français.
Il te parle encore?
Mais pourquoi il me parlerait pas?
Je sais pas.
Non, mais si. Et donc, en plus, il avait fait ça bien. Il m'a montré plusieurs phases et tout ça pour m'expliquer un peu comment était géré. Par Amaury Doloru, qui est le directeur sportif, le manager des arbitres, et Michael Landreau, et les consignes qu'ils avaient. Et déjà, là, il y a de l'incohérence. Donc, vu qu'il y a de l'incohérence dans l'utilisation de la VAR, et que c'est le constat, on l'a tous les week-ends dans cette utilisation, où des fois les arbitres savent même plus, mais non, mais là, mais il n'y a pas sifflé, il n'y a pas pénalty, il n'y a pas carton rouge, et puis la VAR les appelle, alors qu'ils n'ont pas à les appeler, parce que normalement, La grande phrase quand la VAR est sortie, c'était des erreurs manifestes. D'accord? Donc là, aujourd'hui, il n'y a même plus ça. Il n'y a plus d'erreurs manifestes. On a une hésitation. On ne sait pas. Bah, viens voir. Et puis l'arbitre, c'est problématique. Donc dans cette utilisation-là, déjà, il y a de l'incohérence au sein des fédérations. C'est le cas. Donc si derrière, tu leur rajoutes un carton vert, en leur expliquant ah bah là maintenant ça appartient qu'aux entraîneurs et tout ça, c'est problématique. Donc déjà dans ces cas-là, dites-moi, l'utilisation de la VAR aujourd'hui c'est une catastrophe parce que ça hache le jeu et peut-être que le carton vert sera par la suite une solution.
Allez-y, parce que si vous êtes pas d'accord, moi je vais aller contre ça. Moi je trouve ça ridicule, le carton vert. Vas-y.
Tu trouves ça ridicule, le carton vert?
Oui, en fait. Pour moi, c'est un débat philosophique. C'est pas à l'entraîneur d'aller décider s'il y a arbitrage vidéo ou non. Enfin bon, bref, ça c'est.
Pourquoi?
C'est-à-dire que s'il y a trois erreurs, mais t'as que deux cartons, qu'est-ce que tu fais alors? Tu vois comment ça se passe?
Alors, à l'inverse.
C'est le droit qu'une fois par
an, mais tu te rends
compte. Non, mais attends,
deux secondes, je te pose une question. Je te dis. Là, tu dis c'est pas l'entraîneur de gérer. OK,
ça me gêne pas
quand c'est un arbitre.
Mais c'est un arbitre, c'est son rôle de prendre des décisions.
Non, qui est au vidéo center, qui est même pas sur le terrain, qui regarde des ralentis et qui dit ah bah tiens, et ça te dérange pas que ça soit lui qui appelle l'arbitre du centre qui lui n'a pas vu la faute et tout ça et qui dit ah viens voir parce que là, ouais, il y a un attentat.
Je te dis pas que la VAR est parfaite, je te dis juste que ça me gêne.
Moi, je préfère philosophiquement, je sais pas, Manu, ce que t'en penses.
C'est l'entraîneur qui demande. Vas-y, Manu.
Non, moi, je trouve au contraire que les acteurs du jeu, on les sollicite pas du tout, et au contraire, quand il y a des problèmes d'arbitrage, je suis d'accord, mais ils ont pas d'arbitrer. On a le droit aussi d'intervenir quand il y a des injustices. Enfin, je sais pas. Parce que, au final, derrière, il n'y a pas de communication avec les arbitres, et encore aujourd'hui, on n'a pas la possibilité d'humaniser les débats et qu'à chaque fois, voilà, c'est comme ça. Même avec la VAR qui est censée justement réduire une grande partie des injustices, et c'est le cas, mais il y a encore une marge d'interprétation qui laisse dubitatif chaque week-end sur tous les championnats d'Europe. Donc quelque part, je me dis, si nous, les acteurs de jeu, en tout cas ceux qui sont à la tête des équipes, sont pas capables, on leur donne pas aussi les moyens de temps en temps de contester des choses qu'ils voient qui sont énormes. Même si ça a été validé par des gens qui sont de l'autre côté et qui en plus des fois il y a des problèmes de compréhension entre l'arbitre et aussi les gens qui sont dans la VAR. Donc moi ça me pose pas de problème. Le carton à l'heure actuelle, le carton vert, je trouve que c'est une très bonne idée sur tous les terrains qui n'ont pas les moyens de développer. Et là où je suis d'accord avec toi, Jérôme, c'est que si c'est une réussite, on peut très bien l'imaginer venir remplacer la VAR qui, pour moi, et là où je suis pas d'accord avec Christophe, ça sera un autre débat, du gars qui dit, trouve que la VAR tue le football de plus en plus. Alors. Et on te rajoute des minutes de jeu, on te casse le rythme. Moi, comme je t'ai dit ce matin, tu m'as posé la question, le carton vert, il faut que ça soit réduit dans le temps et je pense que c'est une bonne solution par rapport à la VAR. Mais j'en ai marre, ça me tue l'émotion, ça tue tout, même au niveau des buts.
Alors,
on passe notre temps justement à arrêter le jeu, alors qu'en fait, on devrait faire des lois qui vont dans le sens du jeu.
Vas-y, Steve.
Bah moi je suis complètement d'accord avec la FIFA. Pour une fois qu'ils ont une bonne idée, il va falloir quand même aller dans ce sens-là. Remettre les acteurs au milieu du jeu, c'est-à-dire aussi les entraîneurs. Parce que les entraîneurs, leur interprétation quand ils sont dans le vif, quand ils sont vraiment dans le jeu, dans l'émotion, même eux peuvent se tromper dans l'interprétation.
Ah oui.
Donc si aujourd'hui on pourrait calmer un peu tout le monde en disant bon bah moi je pense, voilà, je mets le carton vert, je pense qu'il y a pénalty, et qu'on aille voir devant la vidéo et qu'il n'y a pas pénalty, ben le regard de l'entraîneur va se calmer un petit peu, parce qu'il peut aussi se tromper dans l'interprétation.
Ah bah oui, totalement.
Donc moi je trouve qu'on va remettre au cœur du jeu l'arbitre, parce que là c'est pas une décision qui lui appartient, c'est l'entraîneur qui va soulever son droit, son challenge. Et puis on le rappelle quand même, il y a quand même beaucoup de sports où il y a des challenges. Il y a quand même beaucoup de sport et ça se passe très très bien. Donc est-ce qu'on pourrait s'inspirer des bonnes choses qui se pratiquent dans d'autres sports, les appliquer à notre sport?
Attention.
Par contre, non mais attends, c'est pour ça que tu parles de la VAR, mais en fait tu parles de la VAR, mais en fait ça n'a rien à voir. En fait, c'est pas du tout le même débat. Ça n'a rien à voir. Moi, je trouve que c'est très intéressant. Pourquoi? Non, pourquoi? Parce que le carton vert sera utilisé. Écoute, Jérôme, le carton vert sera utilisé pour des matchs où il n'y a pas la VAR. Donc c'est pas de dire la VAR c'est pas bien ou c'est bien, ça n'a rien à voir.
La
VAR ne sera pas utilisée. Exemple, pour des matchs de Ligue 2, pour des matchs de Coupe de France.
Mais la VAR arrive en
Ligue 2, non? Elle devait arriver cette année et puis elle est pas
déjà arrivée, avec le manque de moyens qu'on a. Je pense que c'est pas prêt d'arriver. Mais tu te dis que sur le championnat de Ligue 2, de Ligue 3 demain, ça va pouvoir calmer la frustration des entraîneurs, la frustration des joueurs, avec quelque chose qui est fondamental, c'est le choix. Et là, je reviens sur le nombre de cartons verts. Il va falloir utiliser les cartons verts. Parce qu'au début, les mecs, ils vont l'utiliser un petit peu, dès qu'il y a un petit truc, ils ressentent un petit truc. Mais après, à un moment donné, ils vont devenir intelligents. Parce que je reviens à ce que tu disais, Benoît, tout à l'heure.
C'est
que si tu sais que t'en as que deux, et que tu les utilises à mauvais escient, et ben à un moment donné tu vas dire oh là attends, ça va être compliqué l'histoire.
La FIFA est relaxée dans ce procès, voilà.
Ouais,
mais là c'est fini.
Si dans tous les beaucoup de sports c'est déjà le cas et ça marche plutôt bien, pourquoi tu veux pas que ça arrive?
Parce que chaque sport a ses spécificités et vous m'enlèverez pas l'idée que
il y a des arbitres dans
tous les sports. Un entraîneur qui met un carton vert mais l'arbitre ne va pas dans son sens, ça ne réduira pas sa frustration.
Il y a tout des arbitres dans tous les sports.
Les acteurs interviennent dans l'arbitrage.
Je te félicite encore d'avoir quitté le football.
Voilà, grand procès. On reparlera forcément de la FIFA à partir de cette deuxième partie de saison avec la Coupe du Monde qui arrive. Je vous rappelle qu'RMC est radio officielle de la Coupe du Monde 2026. Dans un instant, deux invités dans Rotten sans flamme, Neil El Aynaoui, l'international marocain qui nous avait rendu visite dans le courant du mois d'octobre, et puis le grand, le seul, l'unique Pedro Miguel Pauleta qui était venu nous parler des Portugais du Paris Saint-Germain. À tout de suite sur
RMC, les meilleurs moments de Rotten sans flamme.
Benoît Boutron.
Les meilleurs moments de Rotten sans flamme jusqu'à 20h ce soir sur RMC. Joyeux Noël une nouvelle fois à tous. On espère que tout s'est bien passé, que les enfants ont été gâtés. Et nous, on vous gâte à notre manière avec à 19h le jeu de la vérité spécial Manu Petit. Ça avait cartonné ce jeu de la vérité. Les membres de la Dream Team avaient dit la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Manu n'avait esquivé aucune question. Rendez-vous à 19h. Pour réécouter ce grand moment. Mais tout de suite, c'est le Allo Giro.
RMC, Rotten sans flamme.
Oh, le but en soi! Le but en soi dans les dernières secondes! Et ce but, il est signé El Aynaoui, qui a contrôlé et qui a frappé dans la lucarne.
Allo Jérôme.
Neil El Aynaoui, international marocain, joueur de la Roma et l'invité de Rotten sans flamme dans le Allo Jérôme.
Salut Neil.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Bonjour, bienvenue. Comment tu vas?
Salut. Ça va très bien et vous?
Bah écoute, nous on est en pleine forme et c'est surtout toi parce que là vous êtes incroyable avec le Maroc en ce moment, 16e victoire consécutive contre le Congo, 1-0 mardi, une qualif à la Coupe du monde.
Et le record établi,
tout va bien, record établi. Vous allez vous arrêter où là?
Ouais. Non, c'est vrai que c'est assez incroyable. Bon, malheureusement, j'ai pas pu contribuer au 16. J'ai fait part aux quatre dernières victoires. Mais non, franchement, c'est incroyable ce qu'on vit. On s'en rend compte, c'est assez dingue.
Comment vous vivez, alors même si, comme tu dis, t'as pas participé à tout, à toutes ces victoires, mais quand même, dans le groupe, tu dois ressentir l'arrivée de Walid Regragui. On a l'impression quand même, avec ce sélectionneur, il y a des choses qui se sont éclaircies et que là, il y a quasiment que du ciel bleu.
Ouais, c'est clair. En fait, il est vraiment proche de nous. C'est vraiment, il a réussi à créer un groupe. En fait, c'est vraiment, on est un groupe. Je pense qu'on est tous ensemble et c'est ça, je pense, qui fait notre force. Bah, en vrai, c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça qui fait notre force, c'est qu'il a réussi à créer ça.
Parce que moi, j'insiste sur le groupe, et t'as raison, et c'est ce qui ressort, c'est la qualité de ce groupe avant tout. Collectivement, vous paraissez très unis et très solides, renforcés aussi par des qualités individuelles un petit peu hors normes. On parle d'Hakimi qui a fini sixième au Ballon d'Or, qui aurait même pu finir plus haut, parce que tellement c'est un joueur fantastique. Mais c'est vrai que dans le secteur offensif, et c'est souvent là que ça fait la différence, on ressent pas quelques individualités.
Bon, Brahim Diaz, c'est un bon joueur.
Je ne dis pas. Il y en a d'autres. Je dis juste que de la trempe de Hakimi qui joue derrière, devant, vous ne l'avez pas. Et pourtant, on sent qu'il n'y a pas de faiblesse dans cette équipe.
Pour revenir sur Hakimi, ouais, c'est vrai que c'est même au-delà du joueur que c'est un vrai leader. En fait, moi, je ne connaissais pas. J'ai appris à le connaître en sélection. Et l'homme, il est incroyable. C'est-à-dire qu'il parle avec tout le monde. Moi, je m'en rappelle de ma première sélection. Il m'a fait me sentir à l'aise, ouais. À l'aise direct. En plus, il parle super bien français, donc ça aide. Et ouais, il parle bien français, franchement.
Il nous le cache français, alors.
Donc. Le coquin, il veut pas faire d'interview en français.
Ah, bah,
ouais. Non, d'accord, mais merci de m'avoir donné l'info.
peut-être j'aurais pas dû dire.
Non, c'est bon, t'inquiète pas.
Ça va.
Non, mais à l'aise, ouais, non, c'est un joueur important, bien sûr.
Ouais, non, franchement, ouais, c'est ça. Pour le groupe, pour le coach aussi, c'est le relais du coach. Et il est au top, franchement. Son rôle de leader, il le remplit à fond en sélection.
Ouais. Nail El Aynaoui, international marocain, en direct dans Rotten sans flamme sur RMC. Nail, est-ce que tu peux nous parler de l'engouement populaire extraordinaire au Maroc? Je l'ai dit, la série est folle. Le Maroc a fait demi-finale de la dernière Coupe du Monde. D'un côté, il y a ces 16 victoires d'affilée, record FIFA, et donc tout se passe bien dans les nouveaux stades, les infrastructures sont folles. Et d'un autre côté, il y a aussi cette pression grandissante qui arrive parce que la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, sera à domicile. On sait à quel point c'est compliqué de remporter une CAN. Est-ce que vous êtes un peu entre les deux? L'euphorie d'un côté et la pression qui commence à monter pour la Coupe d'Afrique des Nations?
Ouais, c'est vrai, comme vous l'avez dit, avec le parcours qu'ils ont fait en Coupe du Monde, la série qui est en cours, je pense qu'on va être, en plus, le Maroc qui reçoit la Coupe d'Afrique, c'est sûr qu'il va y avoir une pression, mais on essaye. Hein, bon, en tout cas, bon, on essaye de pas y penser. Le coach en parle souvent de ça, de jouer libéré. Il essaie de prendre la pression un peu sur lui, mais bon, c'est sûr qu'il y a une certaine pression pendant cette Coupe d'Afrique.
Ouais. Ney, moi j'ai une question, Steve Savidan. Je voudrais que tu me donnes un peu ton analyse sur l'évolution qu'il y a dans le football marocain, parce qu'on le voit quand même depuis ces 5, les 10 petites années, on voit une évolution incroyable en termes de joueurs, en termes d'individus qui jouent quand même dans des très grands clubs. On voit que collectivement, vous arrivez vraiment à gérer des grosses compétitions, ce qui n'était pas forcément le cas avant, où c'était exceptionnel. Et puis on voit en plus hier soir avec les U20 qui accèdent quand même à cette finale. C'est quoi qui a été mis en place vraiment sur ces 10 dernières années, si t'as vraiment vu une évolution dans le football marocain?
Je pense que déjà le pays a mis les moyens, déjà, que ce soit en termes d'infrastructure.
Je sais pas, le centre, il est beau, hein. Le centre, il est beau là-bas, hein.
C'est un truc de faux.
On va y aller bientôt.
J'en ai fait quelques-uns.
Le centre de performance, il est peut-être l'un des meilleurs au monde.
Bah, honnêtement, ouais, j'ai eu la chance avec la Roma d'aller au centre d'Angleterre cet été faire une prépa. Et il y a rien à envier.
C'était mieux là-bas.
Vraiment, c'est. Franchement, ouais. Je suis pas mieux, mais en tout cas, ils ont rien à envier au plus grand centre de football en Europe. Mais je pense que déjà ça fait la différence. Il y a eu beaucoup aussi de binationaux qui ont choisi le Maroc aussi pour ça, parce qu'ils savent qu'il y aura des infrastructures, un staff aussi de qualité dans le staff. On a du staff qui vient des plus grands clubs en Europe. Donc je pense que c'est là où ça a fait la différence, à mon avis.
Jean-Michel.
Neil, bonjour, ou bonsoir plus exactement. Neil, il y a une force incroyable, moi, que j'apprécie beaucoup. Alors, je ne veux pas minimiser le rôle de votre entraîneur, et il a des résultats extraordinaires, mais raconte-moi un tout petit peu la vie d'un jeune comme toi, parce que tu es jeune dans cette équipe, et comment tu sens qu'il y a une force qui vous pousse vers la victoire et qui vous donne cette solidarité.
Comme je l'ai dit, en fait, moi, déjà dès mon arrivée, que ce soit Achraf Hakimi ou les autres, ils m'ont accueilli, ils m'ont vraiment accueilli, ils m'ont fait sentir comme si ça faisait 10 ans que j'étais en sélection. Et je pense que la force, elle se fait là, en fait. C'est d'abord, on est comme une famille, j'ai envie de dire, parce que même quand on n'est pas en sélection, on reste toujours en contact quand on rentre dans les clubs ou quoi. Donc, en fait, c'est vraiment, on a l'impression d'être, on va tous ensemble et on est tous sur le même. On va tous vers le même but, donc je pense que c'est là notre force, je pense.
Neil, tu l'as dit toi-même, il y a un vrai sujet au Maroc qui concerne les joueurs binationaux. Plusieurs ont donc choisi d'aller représenter la sélection marocaine. Je pense notamment à Amin Adli, à Elias Ben Seguir et à toi, parce que toi, tu as 24 ans. T'as eu besoin d'un moment de réflexion. D'ailleurs, Walid Regragui en avait parlé. T'as pris le temps de bien réfléchir, peser le pour le contre avant de choisir le Maroc. Qu'est-ce qui a fait la différence dans ton choix, en fait? Est-ce que tu peux nous l'expliquer?
Après, je pense que sur ces sujets-là, moi, j'ai la chance d'avoir la double nationalité. Il n'y a pas de mauvais choix. Je pense que faut que ça se fasse naturellement. Après, j'ai beaucoup échangé avec les coachs, avec les joueurs aussi qui étaient en sélection, dont Achraf. Je me rappelle d'un Paris-Lens au parc où j'avais un peu parlé avec lui après. Il m'avait dit tout le bien de la sélection.
Ah, il a fait
française.
Le VRP pour le Maroc, Achraf Hakimi, en Ligue 1. Il t'a dit, viens, il faut venir, c'est super. Ok.
Non, il m'a pas forcé, mais voilà, on a parlé un peu et puis il m'a dit son ressenti à lui. Et après, c'est naturel, je pense que c'est un choix personnel, ça, et naturellement, en fait, ça s'est fait. J'ai parlé avec le coach et puis quand je suis venu, en fait, je me suis rendu compte que j'avais fait le meilleur choix pour moi.
Et le bon choix, alors autant tu l'as fait et t'as raison qu'il faut être conforté là-dedans en sélection. Est-ce que tu penses avoir fait le bon choix en signant à l'AS Roma, sachant que Gasperini est un entraîneur spécifique quand même? Est-ce que déjà tu sens qu'il t'a apporté des choses, ce coach?
Ouais, bien sûr. Mais après, ouais, si j'ai des regrets ou pas, le regret, c'est de... Je l'aurais eu si j'étais pas venu ici, mais parce que bon, quand un club comme l'AS Roma, même j'ai eu beaucoup massard au téléphone, le coach aussi, donc ça s'est fait naturellement. Et puis ouais, c'est un personnage et il a sa vision du football qui est assez spécifique.
C'est pas dur de s'adapter à ce qu'il demande ici.
C'est compliqué parce que j'avais pas connu ça auparavant. En France, c'était moins tactique. Là, c'est vraiment bien ciblé ce qu'il demande à chaque poste. Mais au début, si c'est un peu compliqué, surtout que c'est la première fois, moi, que je quittais la France, j'apprends un nouveau championnat, un nouveau football, une nouvelle vie. Mais voilà, petit à petit, avec des joueurs de qualité aussi, je pense que ça aide. Donc, ça demandait un petit temps d'adaptation, mais je commence à m'y faire.
Et merci beaucoup, Neil, d'être venu dans Rotten sans flamme. Regarde, on te met l'hymne marocain, comme ça tu te projettes le 21 décembre à Rabat, le match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations.
Magnifique.
On espère que tu seras titulaire, comme ça que tu pourras faire briller le Maroc.
Neil, on te le souhaite en tout cas, et surtout merci beaucoup d'être venu partager ces émotions-là de ces derniers jours avec la sélection. Tu reviens quand tu veux dans Rotten sans flamme. Voilà, on t'a ouvert les portes et moi c'est un plaisir d'avoir des joueurs comme toi. En tout cas, bon courage pour la suite.
Salut Neil, merci.
Merci beaucoup à vous, merci.
À bientôt,
salut,
bonne Neil. Soirée.
RMC, Rotten sans flamme.
La frappe, le but! Ça fait 7 pour le PSG. Vitinha se joint à la fête.
Pauletta dans la surface, la frappe. Oh le but! Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro! Miguel!
Allô Jérôme.
Quel but celui-là. C'est incroyable. Légende du Paris Saint-Germain présente dans Rotten sans flamme, Pedro Miguel Pauleta avec nous, Jérôme.
Salut Pedro. Oui.
Salut Jérôme.
Ça va Pedro?
Ça va très bien. Bonsoir à tous.
Bon, merci
ça
d'être là.
Très bien.
Merci d'être là, de partager la passion avec du foot qu'on a. Et surtout la passion commune qu'on a du Paris Saint-Germain. T'as vu le match hier, j'imagine?
Oui, bien sûr.
Mais alors, qu'est-ce que tu en penses?
Écoute, un match de Champions League, quand tu joues de la façon que Paris a joué hier, avec toute la qualité et avec tout le but qui est marqué, c'est sincèrement, c'est un régal pour nous, que même le club, supporter de Paris Saint-Germain, mais plus que supporter de Paris Saint-Germain, c'est pour le football français. Je crois que c'est tellement important d'avoir un club aujourd'hui comme Paris Saint-Germain.
Pedro, dans cette performance incroyable encore du PSG, mais comme depuis pas mal de semaines, mais on va rester focus sur le match d'hier. Les Portugais, ils sont énormes. Ben, c'est XXL. On parle de Vitinha, on parle de Nuno Mendes. Ouais. Non, mais quel conseil tu leur as donné pour qu'ils soient à ce niveau-là?
Non, c'est vrai que nous, Portugais, nous avons la chance d'avoir cette quatre joueurs formidables à la sélection de Portugal. Et bien sûr, à Paris Saint-Germain, c'est un énorme plaisir de regarder des joueurs de cette qualité, de jeunes joueurs, des joueurs avec une qualité énorme, mais aussi de bons mecs, de bons garçons, des gens simples, des gens qui ont envie de faire quelque chose. La simplicité, c'est énorme. Quand tu connais le 4, j'ai eu la chance de connaître le 4 joueurs pendant qu'ils avaient 15 ans à la sélection. Et c'est vrai que la qualité, elle est là, mais après, la qualité, c'est des joueurs très simples, des joueurs qui ont une envie énorme de faire quelque chose d'important dans le monde du football. Et c'est vrai que c'est un régal pour nous tous, regarder des joueurs comme ça. Hier, Vitinha et Nuno Mendes, qui est dans une forme énorme, c'est très bien pour le club.
Tiens, Pedro Miguel Paoletta, invité de Rotten sans flamme dans le Halo Jérôme ce soir. J'ai Mathieu sur notre numéro WhatsApp, le 0612 424 424, qui nous dit: dites à Pedro que les supporters du PSG n'oublieront jamais notre règle des Açores. Donc forcément, tout le monde est ravi de te retrouver. Pour préciser sur Vitinha, Pedro, toi tu le connais depuis très longtemps. Nous on l'a vu arriver à Paris il y a quelques années. Au début on le trouvait un peu timide. Il s'est métamorphosé vraiment depuis 2 ans. Et puis la saison dernière a été énorme. Il a terminé 3e du Ballon d'Or. Tu considères toi aujourd'hui que c'est le meilleur milieu de terrain au monde, Vitinha?
Oui, je crois. Lui, Pedri de Barcelone, je crois que c'est deux joueurs qui ont un niveau énorme. Ça fait repenser à l'époque de Iniesta. Il perd pas la balle. C'est un joueur qui est toujours bien placé. Quand il a le ballon, il sait tout faire. Il fait pas une erreur, il arrête pas une passe. C'est vrai, une qualité. En plus, elle est en confiance. Il sent la confiance de l'équipe. Il sent la confiance de son coach, de club. Et ça, c'était important pour lui. C'est un joueur, c'est un phénomène. Ça, c'est sûr.
Jean-Michel.
Pedro, je vais ajouter quand même au duo le troisième homme, João Neves, qui est pour l'instant indisponible. Ouais. Mais ça fait quand même une drôle de triplette au Paris Saint-Germain. Alors moi, je suis tombé en extase devant Nuno Mendes depuis 6 mois. Je t'assure, je l'ai vu notamment de près lorsqu'il a malaxé, tabassé Lamine Yamal lors de la finale Portugal-Espagne. Il est extraordinaire. Il marque encore hier. Ce garçon-là, honnêtement, je ne le connaissais pas, mais d'où viennent ces qualités, d'où viennent ces qualités physiques et techniques du Portugal? Parce qu'on parle beaucoup de la qualité physique, mais techniquement, comment se fait-il que ces joueurs du Portugal soient au-dessus de la moyenne? Et c'est un petit peu mon combat, tu vois, parce que je trouve qu'en France, cette qualité-là, elle est un petit peu délaissée. Mmh. Oui. Ouais.
Oui, c'est vrai qu'à part de la force qu'il a, il a la technique. C'est pas trop normal un défenseur avoir la technique qu'il a. C'est vrai. Vous savez, au Portugal, nous avons la chance d'avoir au moins 3 grands clubs qui travaillent très bien dans la formation: Benfica, Sporting, Porto. Ces 3 clubs qui travaillent sincèrement super bien dans la formation. Nous n'est pas beaucoup de joueurs, c'est vrai, mais tout le bon joueur que tu vois qui a une qualité, tout de suite, ces 3 clubs, ils prennent. Après, c'est vrai que Nuno Mendes, Vitinha, c'est des joueurs à part. C'est pas tous les jours que ça sort de joueurs. Le Portugal, il a un peu la chance de dernières années d'avoir 4, 5, 6 joueurs d'une qualité énorme. Comme vous disiez, João Neves aussi, c'est pas normal un joueur avec son âge avoir telle qualité, une confiance énorme quand tu arrives dans un club comme Paris Saint-Germain, comme il est arrivé l'année dernière, et tout de suite s'imposer dans l'équipe, c'est un régal pour nous tous. C'est bien pour Portugal, c'est bien pour Paris Saint-Germain. Même nous parle pas de Gonçalo Ramos.
Justement, tiens, Pedro.
Je sais que c'est pas un titulaire indiscutible, mais c'est un joueur aussi qui a porté beaucoup l'année dernière et cette année. C'est un joueur important aussi pour le club. Vous savez, c'est pas facile d'avoir un jeune avec la qualité de Gonçalo, qui chaque fois qu'il entre et marque des buts. Être sur le banc, c'est pas facile pour eux. Je suis sûr que Gonçalo Ramos, il pouvait jouer n'importe quelle équipe dans un autre pays. Mais garder cette joueur avec cette envie de jouer et d'aider l'équipe, c'est pas facile. C'est important pour faire une grande équipe. C'est important d'avoir des joueurs comme ça aussi.
Tiens, Pedro, justement, un autre grand buteur voulait en parler de Gonçalo Ramos. C'est Jean-Pierre Papin qui est avec nous. Jean-Pierre.
Ah, celui-là, bonsoir, c'était Pedro. Le phénomène.
Comment tu vas, Pedro?
Tu étais pas mal non plus.
T'imagines l'attaque avec les deux là, bro.
Ouais, c'était pas mal.
Alors je vais parler un petit peu de Gonçalo Ramos, parce que moi c'est un joueur que j'aime beaucoup. J'ai défendu la semaine dernière. Bien sûr, les trois autres on a fait le tour. Et encore, je pense qu'ils vont encore nous épater d'ici peu. Mais qu'est-ce que tu penses qu'il manque aujourd'hui à Gonçalo Ramos pour alors je sais pas si être titulaire indiscutable, quoique, mais qu'est-ce qui lui manque aujourd'hui pour faire vraiment partie de cette attaque du PSG?
C'est pas facile quand tu vois la manière que Paris Saint-Germain il joue aujourd'hui devant. C'est de trois attaquants qui bougent partout. Gonçalo Ramos, c'est plutôt le numéro 9. C'est plutôt le joueur qui reste toujours dans l'axe, toujours dans la surface. Et je crois que c'est pas le style de jeu que Paris joue tout le temps. C'est vrai que chaque fois qu'il entre, chaque fois que c'est nécessaire, un joueur comme lui dans le terrain, lui l'utilise, il marque des buts. C'est un joueur aussi jeune, on ne peut pas oublier ça. Je crois que c'est continu, ça va arriver son opportunité dans l'équipe, et il va être un joueur, pourquoi pas, dans l'avenir, un joueur titulaire indiscutable de Paris Saint-Germain. Je crois que ça, c'est possible. Aujourd'hui, il attend cette opportunité, il profite. Toutes les minutes qu'il joue, il profite pour faire des choses bien, pour aider l'équipe. Mais c'est un vrai buteur, comme tu sais, ça fait quelques années que nous commençons à perdre le vrai buteur. Tout le club, tous les entraîneurs aujourd'hui utilisent moins le numéro 9. Tu n'es pas beaucoup. Et Gonçalo, peut-être c'est des dernières attaquants numéro 9 qu'il y a dans les rangs du football.
Ah, tu penses que c'est une évolution tactique, Pedro? Tu penses qu'il y a une évolution tactique et que le numéro 9, comme vous l'avez été avec Jean-Pierre, est appelé un peu à disparaître, en tout cas pour l'instant?
Oui, non, ça reviendra. Pour moi, ça reviendra.
Ouais, ça reviendra peut-être, mais quand tu regardes, par exemple, Real Madrid, n'est pas le vrai 9. Barcelone, des fois, n'utilise pas le vrai 9, Paris Saint-Germain non plus. Tout le grand club. Aujourd'hui, quand tu vois, par
c'est
exemple.
C'est intéressant, ta remarque est intéressante.
Manchester City a fait ça aussi pendant quelques années. Ils ont changé un petit peu avec Alain, l'arrivée d'Alain. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de clubs que tu lises pas aujourd'hui. Le 9, quand tu vois le joueur qui joue sur le côté, avant comme on était joueur, le joueur sur le côté, c'était des joueurs qui arrivent pour faire des centres.
Bah, c'était Rotten.
Oui, tu as un Rotten qui est sur avec sa
patrouille. Arrête de parler de Rotten, il va faire le cigare. Il a déjà. Il va exploser.
Il a régalé Pedro pendant des années.
Pedro, donne pas tous les conseils qu'on se donnait sur le terrain. terrain, parce que quand j'avais le ballon à gauche, tu regardais le but et tu disais là j'ai une chance. Quand le ballon était à droite, tu disais bon laisse tomber, allez, ça va, ça arrivera pas.
Non, non, tu peux pas, Fabrice Pancrate.
Ouais, mais... il t'envoyait des parpaings. Ouais.
Accrocher le tableau d'affichage.
Non, 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 mais là, ton analyse et celle de Jean-Pierre et de Jean-Michel, elle est juste. Moi, je pense qu'en effet, ça vient surtout des joueurs de côté. Aujourd'hui, les joueurs de côté, c'est des joueurs qui percutent, qui sont dans le dribble, qui veulent aussi marquer des buts, contrairement à nous à l'époque. Hein, c'était un peu ça. Et ça vient surtout des latéraux. Si tu veux profiter du numéro 9 du buteur, il faut que les latéraux ils jouent très haut, ouais, et qu'ils soient aussi décisifs avec la qualité de centre. L'avantage du PSG et pour Gonzalo Ramos, et on le voit très souvent, c'est que c'est vrai que quand Hakimi déborde ou quand Nuno Mendes il déborde, bon bah en général ils envoient des bons ballons.
Hier le centre de Nuno Mendes pour le but.
Donc il peut y avoir un avenir en effet pour Gonzalo Ramos.
Merci Pedro.
Oui, plutôt le latéral pour exemple à Paris Saint-Germain.
J'ai une toute
Paris sont beaucoup offensifs.
Ouais, vas-y Jean-Michel.
J'ai une toute petite anecdote. Parce que j'ai vu Pedro pour le centenaire du stade municipal à Bordeaux. Ouais. Et quel âge tu as Pedro?
52.
Il a toujours envie de marquer des buts. Hein. Il a toujours envie de marquer. Hein.
Ah oui, ça c'est sûr. Ça va mourir avec moi.
Comme Jean-Pierre, c'est pareil. C'est ça, les attaquants, les vrais numéro 9.
Bon, 52.
Merci Pedro.
Et Pedro, tu fais quoi en ce moment? Tu fais quoi? Le rentier que tu es, tu fais quelque chose quand même?
Maintenant j'ai des choses aux Açores dans mon école, ma fondation. J'ai une académie ici. Après, j'ai fait pas mal de choses avec Paris Saint-Germain. J'ai travaillé avec le club comme ambassadeur de club. Aujourd'hui, c'est arrêté la fédération. En Portugal, c'est obligé de faire 3 mandats. Mmh. Après 3 mandats, tu es obligé de sortir. Bon, moi, je viens de sortir. Ça fait 2 mois de la fédération. Et je profite un petit peu, la famille aussi. Aujourd'hui, je suis aux Açores pour passer un week-end avec la famille. Et je suis bien.
Merci, Pedro.
La prochaine, je vais être à Paris. C'est bien.
Eh bien, écoute, merci. Pedro, on se voit bientôt. Et merci beaucoup d'être...
Merci à vous. C'est un plaisir
d'être toujours, passé.
Salut, Pedro.
Merci.
À bientôt.
Allez, je t'embrasse. Bisous.
Pedro Miguel Paoletta, qui était avec nous ce soir pour évoquer les Portugais du Paris Saint-Germain.
Et on remercie la légende, Pedro Miguel Paoletta, qui était venu nous rendre visite le 22 octobre dernier. Dans un instant, le grand moment, le jeu de la vérité, spécial Manu Petit. À tout de suite sur
RMC, les meilleurs moments de Roten sans flamme. Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.